Radio Django, émission spéciale. Horizon Chine, horizon Sénégal, horizon Colombie. Une série d'émissions spéciales en direct de Pôle Sud, avec le soutien du Fonds Lausannois pour l'intégration et Clipen Clank Radio Choulet.
Vous écoutez Radio Django et cette émission spéciale ce soir Horizon Colombie, le troisième volet de cette série Horizon. Et cette dernière partie que nous entamons maintenant, nous allons débattre sur le rôle que joue la diaspora colombienne dans le développement de la Colombie et les motifs qui conduisent autant les associations que des chercheurs à vouloir collaborer sur divers projets dans le domaine social, environnemental et académique, Arnaud.
Exactement, Fabien. Et puis pour nous en parler, nous recevons Nicolas Mora, président de l'ACIS, l'Association des chercheurs colombiens en Suisse, né à l'EPFL. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
Et puis avec nous aussi, Marcel Douce, vous êtes responsable du projet Bogota Obric, une initiative privée par contre. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Aussi toujours avec nous, Attilio Bernasconi, actif dans le projet de bibliothèque communautaire dans la région de Cauca. Cauca, je prononce bien, c'est juste ça. Soutenu par donc la fondation Aquilon, qui veut dire cerf-volant en français, une petite fondation tessinoise qui fait partie de la FOCIT, Fédération des ONG de la Suisse italienne. Bonsoir.
Rebonsoir.
Rebonsoir, évidemment. On démarre tout de suite donc avec vous, Nicolas. Quels sont les projets que développe l'ACIS?
Alors, évidemment, on a une association de chercheurs. Alors, on fait plutôt des projets dont l'intérêt, c'est académique. Mais, disons, en Colombie, on fait un travail de réseautage. On essaie de contacter les universités ou le secrétariat de recherche et éducation pour entamer des projets avec nos partenaires ou nos membres ici en Suisse, notamment de professeurs étudiants et professionnels en Suisse qui s'intéressent à l'échange et la coopération académique avec le pays.
Et vous avez aussi beaucoup de collaborateurs locaux, bien sûr, en Colombie. Est-ce que vous avez quelques noms qu'on peut avoir juste?
Oui, bien sûr. Ben, c'est plutôt les universités en Colombie.
Justement, oui.
Parmi l'Université nationale de la Colombie, l'Université d'Antioquia, Univalle, et comme je dis tout à l'heure, le secrétariat de recherche et innovation de la Colombie, ça serait plutôt en Colombie. En Suisse, on a nos équivalents de professeurs, d'étudiants, de doctorat, de master ou de bachelor qui s'intéressent à la coopération. Ce sont plutôt les partenaires, les membres avec qui on travaille main à main.
Et concrètement, vous avez des projets types qui sont sur place en ce moment?
Oui. Disons, on a un programme pendant toute l'année. On a deux types de projets. En général, c'est plutôt la vulgarisation de la science. Donc, on fait couramment de conférences en Suisse, en Suisse allemande ou en Suisse romande en général, où les étudiants ou nos partenaires présentent un sujet, soit parce que c'est intéressant ou parce que c'est lié à la Colombie. Et on a par exemple aussi des projets qui se font avec des chercheurs en Colombie sur un sujet spécifique aussi. Maintenant, on vient d'entamer un projet d'éducation à, disons, sur l'environnement. On essaie de former les enfants en Colombie à prendre soin de l'eau. Et bon, ce sont des petites initiatives qu'on a maintenant à l'association.
Tout ce qui est lié à l'environnement.
Pas forcément à l'environnement. On a des projets sur l'environnement, mais on a des autres projets. Par exemple, au Mamen, je travaillais pour un projet de déminage humanitaire. J'étais boursier de la Confédération, je suis arrivé en Suisse pour travailler dans ces projets.
D'accord.
Mais ça n'appartient pas forcément à l'association, c'est nos partenaires qui travaillent, soit avec les universités suisses et colombiennes. Et nous, on essaie de faire, comme je dis tout à l'heure, le réseautage, le regrouper dans une seule association.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Nicolas Mora Parra, vous restez toujours avec nous. Et puis, aux côtés des associations colombiennes, certains Colombiens ou Suisses s'impliquent personnellement dans les relations socio-économiques, notamment avec vous, monsieur Marcel Douce, nous allons parler évidemment de votre implication dans ce projet BRICO, bien sûr en Colombie. On s'est déjà salué tout à l'heure. Vous êtes suisse par contre?
Je suis suisse, je suis fribourgeois.
Fribourgeois. Vous êtes bilingue, vous parlez très bien l'allemand aussi, je pense.
Non, je parle très bien l'espagnol, je ne parle pas l'allemand.
Bien, donc, bien.
Je n'aime pas beaucoup. Mais voilà, c'est un long parcours que j'ai avec la Colombie.
Super. Et quels sont justement vos liens avec la Colombie ?
Alors, les liens, ça a été un très grand orgasme avec la Colombie que j'ai découvert à l'âge de 21 ans.
Super.
J'étais très engagé à l'époque. J'ai commencé très jeune dans l'engagement social, d'abord avec Amnesty, ensuite avec une organisation qui s'appelait Frères sans frontières, qui s'appelle maintenant Échanger. Par la suite, avec les comités Nicaragua-Salvador. Et ensuite, j'ai contribué à relancer la jeunesse socialiste fribourgeoise. C'est dans ce contexte-là, surtout dans le cadre de Frères sans frontières, qui envoyait des volontaires à l'étranger, que j'ai souhaité voir sur le terrain les projets que défendaient les volontaires. Ouais. Donc j'ai été en 1982 en Colombie, puis en Équateur et au Pérou. Et ce pays, la Colombie, m'a complètement envahi.
Et justement, c'est avec votre ami Guillermo Morero Salamanca, j'arrive, hein. C'est pas évident, mais je m'en sors pas mal.
Guillermo
Morero, c'est l'évêque de Fribourg.
Ah, d'accord. Alors, donc, il est journaliste à Bogota, et puis avec lui, vous avez développé pas mal de projets. Comment justement est né ce projet Brique au Ballon, et à quel besoin répond vraiment ce projet ?
Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai travaillé en Colombie ensuite 3 ans, une année pour le CICR et ouais. 2 ans pour Edmond Kaiser, ce qui m'a permis de mieux comprendre la Colombie. Donc ouais. Avec Edmond Kaiser, j'ai connu déjà des régions pauvres du sud de Bogota.
De Bogota.
Je suis retourné l'année passée pour un projet de photographie.
Ouais.
Et grâce à Guillermo Romero Salamanca, qui est journaliste indépendant à Bogota, il m'a dit, écoute, viens Marcel, je vais te faire découvrir des quartiers que tu ne connais pas. Et c'est comme ça qu'on a été à Ciudad Bolívar, qui est dans le sud de Bogota, ainsi qu'à Soacha. Il s'est engagé il y a plus d'environ 4 ans maintenant, à titre personnel.
Et oui,
je tiens à le
préciser.
C'est
important, ça. Oui.
C'est important parce que ce n'est pas associatif. Et pour répondre à une question suivante peut-être... Et il m'a simplement montré ces endroits. Donc j'ai eu l'occasion de faire connaissance de pas mal de personnes fantastiques qui œuvrent pour la communauté. Ce sont tous des Colombiens.
Mmh.
Et suite à ça, j'ai fait un appel à ma famille pour un appel de dons. Je ne lui avais pas dit, je lui ai fait la surprise. Et j'ai eu un retour d'environ 850 francs suisses que j'ai pu lui donner pour ce projet qui est dans un bidonville pour refaire des maisons qui n'en sont pas la plupart du temps,
oui. Hein,
ce sont des tôles, et pour l'accès à l'eau, parce qu'il y a dans ce quartier de Bogota environ 10 000 familles qui n'ont pas accès à l'eau, certaines depuis 4 ou plus d'années.
Plusieurs années, oui.
Voilà. Donc, c'est de les raccorder à l'eau, chose que l'État ne fait pas.
L'eau, c'est une source de vie, c'est assez important. Donc, pour vous, c'était utile d'apporter quand même de l'eau potable à ces populations qui sont dans le besoin. Est-ce que vous recevez aujourd'hui le soutien d'autres partenaires colombiens ou du gouvernement ?
Non, pas du tout. Du reste, lorsque j'étais sur place, on était en pleines élections à Bogota pour malheureusement l'élection de Peñalosa. Rien ne se fait sur place. Il n'y a rien qui suit. Et au contraire, mon ami, à ce moment-là, moi, je lui ai envoyé de l'argent. Il s'est retiré pendant 2 semaines de ses actions pour ne pas être récupéré par les partis politiques sur place.
Ouais, aujourd'hui, c'est une belle expérience et cela continue toujours, ce projet Brique Eau à Bogota. Je pense que vous aimez bien ça. Hein. C'est assez important pour vous de faire ce projet, humainement, je veux dire.
Alors, humainement, pour moi, c'est très important. Pour mon ami, c'est très important aussi. Il est en contact avec 2 associations sur place pour déterminer qui va pouvoir bénéficier de ces aides en fonction de certains critères qui ont été mis à plat. Voilà. Maintenant, moi, c'est une action personnelle. J'ai l'occasion d'avoir des amis ici en Suisse qui me donnent un appui. Je suis très engagé dans ce projet et ça me fait plaisir de pouvoir faire quelque chose ensemble.
Merci beaucoup, M. Marcel Douce. Vous restez toujours avec nous. Avec vous, Attilio Bernasconi, je vous rappelle, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes anthropologue et puis chercheur à l'université, à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Vous êtes toujours avec nous, hein, tout à l'heure on vous a vu. Alors, la Fondation Aquilon, cerf-volant, je le rappelle en français parce que c'est important, hein, pour vous. Alors, aujourd'hui, c'est une petite association, je l'avais précisé tout à l'heure. Et quels sont les buts ou quel est le but que poursuit justement cette association?
Alors, le but principal finalement de cette petite fondation,
voilà, oui,
est celui de promouvoir l'amour pour la lecture. Celui, ça se fait notamment à travers des projets, des petits projets de bibliothèque.
Justement, oui.
Avec une idée derrière qui n'est justement pas celle d'amener des livres dans un endroit pour que les gens les lisent, oui, mais de créer, participer à la création de l'environnement, oui, dans lequel les jeunes peuvent se rapprocher à la lecture.
Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'est né le projet Bibliothèque communautaire de la Toma. Vous pouvez mieux nous en parler, j'imagine, plus développer,
oui,
ce projet.
Alors, comment est né le projet de Bibliothèque communautaire de la Toma, qui est une communauté au nord de Cali, à 3 heures de Cali, dans le sud-ouest de la Colombie. Oui. J'aimerais dire qu'il est né par hasard, mais je préfère utiliser une expression qui utilise toujours une vieille dame de la communauté qui me dit « Parfois, les ancêtres conspirent ». Moi, j'étais là pour mes recherches de master. Oui. Je faisais de master en anthropologie et en, oui, géographie humaine. Oui. Et un jour, il y a des jeunes qui m'amènent à l'école et puis ils me montrent des livres qui étaient mis en pile dans un coin. Mmh. Et puis ils me disent, oui, en fait, on avait reçu ça depuis le ministère de l'Éducation, mais ici, en fait, les gens ne savent pas lire, donc ils sont là parce que personne ne peut les utiliser. Et donc voilà, on aimerait bien arriver à utiliser ces livres, mais on ne sait pas comment faire. Alors du coup, j'ai parlé un peu de cette fondation. Et finalement, le projet est né en communauté, par la communauté. Et donc, on est dans ce processus de création, encore vraiment de l'espace, de cet environnement de bibliothèque qui doit venir se créer.
Je pense que cela aussi reçoit ce projet reçoit l'appui de la Fédération des ONG de la Suisse italienne, je pense.
Non,
pas forcément.
En fait,
il y a d'autres partenaires.
Le projet, oui, est financé par la Fondation Aquilone, dans la Fondation Arc-en-Ciel, voilà, qui fait simplement partie de cette fédération. Et est soutenu aussi par le PCN, qui est une organisation nationale en Colombie. PCN signifie Proceso de Comunidades Negras de Colombia, donc processus de communautés noires de Colombie, et qui est un peu le partenaire légal, associatif qu'on a en Colombie. On va dire les fonds arrivent que de la fondation, quoi. Il n'y a pas d'autres partenaires économiques, si on veut.
Et puis, c'est un besoin, finalement, pour vous d'investir autant d'efforts dans des projets dans votre pays d'origine. Est-ce un besoin en tant qu'anthropologue?
Je dirais ce n'est ni un besoin ni une nécessité. Moi, je suis né dans la rue de Medellín. Je veux dire,
Pour résumer,
oui, par la somme des différents actes d'amour, oui, la vie m'a rempli de possibilités, ce qui fait que je suis ici, que je travaille à l'université, etc. Et donc, pour moi, c'est un acte naturel de travailler avec les gens qui n'ont pas eu et n'ont pas les opportunités que moi j'ai eues.
Et cela garde aussi un pont, cela sert de pont pour vous quand même de rester connecté à votre pays d'origine, qui est la Colombie, en tout cas, je pense aussi.
Oui, plutôt que je ne parlais pas forcément de connecter avec le pays d'origine, mais plutôt avec les gens
directement
qui ont les mêmes
place.
Racines que moi. Oui.
Merci beaucoup. Et puis la Fondation Bambi, on va en parler, elle est très active donc en Colombie. Je vous propose ici une petite interview de Madame Christine Fedele qu'on avait écoutée tout à l'heure. Une interview, elle répond plutôt au micro de Daniel.
Créée en 1985 par un coup de cœur d'une famille qui a vu la misère des enfants, puisque un petit enfant de 2 ans est mort face à leurs yeux, ils ont décidé, au fond, de faire des foyers d'accueil pour ces enfants. Et la réponse à la demande, c'est vraiment accueillir pendant le temps qu'il faut des enfants dont les parents ne peuvent plus s'occuper économiquement. Et ces enfants vivent dans les foyers Bambi, qui sont au nombre de 4 répartis en Colombie actuellement, et ils reçoivent absolument tous les soins nécessaires à leur survie. Ça commence par de l'alimentaire, ensuite du médical, beaucoup de psychologique, et puis beaucoup d'amour surtout. Et ces enfants restent en moyenne 1 année, et ils retournent tous les week-ends dans leur famille pour ne pas couper les liens familiaux qu'ils peuvent avoir.
Dans quelle mesure la Fondation, par ses activités, permet de combler des manques structurels ?
Alors, comme vous savez, il y a 4,5 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Donc, ces populations arrivent vers les villes et bien sûr, ils n'ont aucun moyen de subsistance possible. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont accueillis et au niveau du gouvernement, énormément de choses se font, mais ce n'est pas du tout suffisant par rapport aux problèmes des enfants et des femmes qui, pour la plupart, sont illettrés.
Et en quoi ces partenariats associatifs Suisse-Colombie, de manière générale, sont nécessaires pour soutenir les plus démunis ?
Alors, ils sont essentiels. Le problème a été très longtemps que la Colombie ne reconnaissait pas ses besoins. Maintenant, elle est beaucoup plus ouverte à ça et il y a des possibilités beaucoup plus faciles et beaucoup plus nombreuses pour ces enfants. Et c'est un complément. Le but n'est absolument pas de remplacer les responsabilités du gouvernement, mais simplement de permettre plus rapidement de résoudre un problème social qui reste très crucial en Colombie.
Quelle est finalement la plus-value de ces réseaux transnationaux ?
Alors, on peut dire que, en tout cas pour ce qui est de la Suisse, il y a une immense reconnaissance et beaucoup de respect pour notre pays. Dès le premier jour, la Colombie a été très sensible à l'expérience de la Suisse, au sérieux de la Suisse, à l'organisation de la Suisse et aux compétences de la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui a une connotation suisse est multiplié en Colombie, que ce soit des écoles, que ce soit des foyers, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des domaines d'accueil, quels qu'ils soient. Et je pense que nous avons un bel avenir en Colombie, surtout que maintenant, ce sont des partenariats. Donc, ce n'est pas la Suisse qui aide la Colombie, mais c'est simplement la Suisse et la Colombie qui travaillent main dans la main pour améliorer une condition sociale.
Et comment réagit l'État colombien face à l'éclosion de ces structures bilatérales ?
On pourrait penser qu'elle se sent coupable, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment non seulement la reconnaissance, mais l'intérêt et le soutien. C'est la raison pour laquelle, si au début la Fondation Aide aux enfants assumait la totalité des coûts pour les foyers en Colombie, maintenant c'est un partenariat de 50-50. Donc la Colombie elle-même est impliquée, nous aide à développer ses structures, nous amène aussi un potentiel. Et puis tout le personnel que nous avons en Colombie, 160 personnes aujourd'hui, sont des Colombiens. Donc il y a la proximité et la sensibilité du Colombien pour les enfants de son propre pays. Et ça, le gouvernement le respecte beaucoup.
Et oui, alors Madame Christine Fédé répondait justement aux questions de Daniel tout à l'heure. Elle disait aussi la Colombie, plutôt la Suisse, travaille main dans la main avec la Colombie pour améliorer la condition sociale. Monsieur Marcel Douce, êtes-vous d'accord de ce point de vue ? La Suisse et la Colombie travaillent main en main. Ce n'est pas forcément que la Suisse vienne en aide à la Colombie.
J'ai pas un grand positionnement sur cette question. Moi, je suis dans l'aide directe, non associative. J'imagine qu'il y a des associations qui travaillent sur place. J'en ai connu quelques-unes. J'ai travaillé sur place pour Sentinelle. Maintenant, au niveau du gouvernement, voilà, je pense qu'ils sont plus au développement au niveau économique qu'au niveau du développement direct dans les zones pauvres et autres.
Je pense que je vais me retourner alors, Monsieur Marcelou, si vous permettez, avec Monsieur Nicolas, voilà, avec vous, vous avez l'expérience du travail avec le gouvernement colombien. C'est sûr, en tout cas, à travers les échanges et les expériences, que gagne finalement, enfin, pour répondre à tout à l'heure à la question, est-ce que ce partenariat finalement pour vous est assez important? Vous êtes d'avis, du coup?
Oui, tout à fait. Bon, j'ai un avis dans ces cas-là. Je pense que ces partenariats bénéficient évidemment la Colombie parce qu'on est formé, on vient se former en Suisse quelque part. Je dirais parmi nos membres, une grande majorité vient avec des bourses de la Confédération. Donc c'est quelque chose qui nous convient. Et évidemment, on essaie de faire un effort pour retourner, utiliser tout ce qu'on a appris ici pour développer le pays. Et la Suisse, on gagne aussi parce qu'on est des gens qui a quand même... ceux qui ont la possibilité d'aller aux universités publiques, ils ont une formation de base qui est forte et qui, disons, polyvalente, et que ça bénéficie pas mal les groupes de recherche qui sont aussi en Suisse. Donc, c'est du côté à côté.
Madame Fedele disait tout à l'heure, le gouvernement colombien peut se sentir coupable. Aujourd'hui, il y a l'explosion justement de ces associations pour développer ou venir en aide aux Colombiens. Pour vous, est-ce que vous êtes d'avis finalement que le gouvernement est plutôt coupable ou ils sont d'accord avec l'explosion de ces associations?
Alors, je n'ai pas non plus un positionnement là-dessus. Je dois dire, le fait qu'il y a pas mal de chercheurs colombiens en Suisse, c'est quelque part un problème, un grand problème, parce qu'on ne trouve pas une façon de se développer justement au niveau académique en Colombie. Et alors on doit aller ailleurs, chercher une vie économique plus intéressante que ce qu'on a en Colombie. Donc je dirais qu'il a quelque part un problème. Mais en même temps, j'ai eu la possibilité d'étudier dans une université publique de haute qualité qui est, disons, assez réputée au pays. Donc quelque part, il a encore un petit peu d'éducation qui marche. Donc... c'est compliqué à généraliser.
Est-ce qu'aujourd'hui, il manque d'eau potable en Colombie?
Oui, beaucoup. Ça, c'est sûr.
Et votre association, justement, travaille dans ce sens, un peu avec le gouvernement, pour trouver un moyen, faire des échanges pour répondre à cette question?
Je dirais pas avec le gouvernement, avec le secrétariat de l'éducation. Ils ont donné un petit peu d'argent pour mettre à parler les chercheurs, parce qu'on a appelé en Colombie pour dire, écoutez... il a un grand problème d'eau. On aimerait bien entamer un colloque où on peut inviter des chercheurs colombiens et des chercheurs suisses à discuter la problématique et comment est-ce qu'on va trouver des solutions. Et la grande avantage qu'on a en tant que chercheur, c'est qu'on peut dire qu'on part avec des arguments. Et c'est plus un problème des médias ou de... Vous voyez, donc évidemment, une des conclusions la plus importante, c'est qu'en Colombie, on a un grand problème d'eau et on essaiera de continuer à travailler là-dessus. Mais évidemment, il faut chercher toujours l'aide du secrétariat d'éducation, etc.
Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Avec Monsieur Attilio, on va... Encore une dernière question. On en a parlé tout à l'heure. Pour vous, ce n'est pas forcément un besoin personnel de venir en aide, mais c'est plutôt aider pour aider, c'est plutôt humaine. Finalement, votre association, selon les expériences, vous qui vivez ici en Suisse, avec les partenaires locaux, ça se passe plutôt bien?
Oui, après, pour moi, il ne s'agit non plus vraiment d'aider. Je n'aime pas vraiment ce mot. Il s'agit plutôt de collaborer. Ou pour revenir un peu aux questions qui ont été posées avant, ça peut aussi poser des problèmes parce que avec cette dynamique justement de aide qui se voit comme aide, il y a aussi souvent des logiques vraiment d'ethnocentrisme, de paternalisme qui se reproduisent et qui sont pas non plus forcément sains pour ce qui se passe en Colombie.
C'est vrai qu'il y a finalement une politique de main tendue, on tend plutôt la main vers l'étranger, vous voulez dire.
Et le problème avec cette main tendue, justement, que quand on parle d'aide, il y a toujours une main tendue et une main qui donne.
Ce qui
rend un peu la chose asymétrique. Pour terminer, finalement, aussi participer à cette dynamique d'entraide, c'est des actes d'amour qui ne doivent pas avoir comme but une satisfaction personnelle, mais une satisfaction collective.
Merci beaucoup, M. Attilio. Je vous remercie aussi, M. Marcel Douce, qui était avec nous, et puis Nicolas Parra. On a discuté justement de ce partenariat Suisse-Colombie pour l'amélioration des conditions sociales. Fabien.
Et puis de l'eau hein, aussi, puisqu'on l'eau. Retient quand même cet élément sensible qui est l'eau. Marcel Douce.
Pour l'eau, j'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'actuellement, il y a des entreprises qui détruisent complètement l'eau en Colombie, tant au niveau de la recherche de l'or que de la recherche de pétrole. Et ça, c'est un vrai scandale dans lequel des entreprises suisses sont impliquées.
Merci, le message est passé. Marcel Douce, on profite encore de parler brièvement. On parlait de votre activité à titre personnel et vous organisez à la fin du mois de mai un repas de soutien. Dites-nous en quelques mots, peut-être.
Alors voilà, effectivement, c'est un repas de soutien qu'on a organisé en collaboration avec mes amis de Colombia Vive. Le repas de soutien aura lieu au CPO Croix-Douchy le 28 mai 2016 à partir de 18h30. Nous serons parrainés par Lolita Morena et vous pouvez vous inscrire soit à travers de la page Bogota Brick au ballon sur Facebook ou au téléphone 078 764 81 69. Merci beaucoup.
On mettra toutes les informations sur notre site également. Merci beaucoup Marcel Douce et puis merci à tout le monde qui a participé ce soir à cette émission.
Horizon. 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 Horizon.